Des magistrats romans se rebellent contre les cotisations exigées par leur parti. Ces juges et procureurs ne veulent plus être tenus de payer des contributions politiques, des taxes donc qui se montent parfois à plusieurs milliers de francs et qui constituent une part non négligeable des budgets des partis. Bonjour Romain Carupt.
Bonjour.
Vous l'avez appris, c'est à Neuchâtel que la fronde est la plus organisée.
Oui, puisque l'Association des magistrats judiciaires du canton a écrit une lettre aux directions des partis politiques. Elle leur demande de renoncer à solliciter des cotisations auprès des juges et des procureurs. Et si ça ne devait pas suffire, cette association recommande à ses membres de ne plus verser de contributions obligatoires. Parce qu'on le rappelle, en Suisse, les juges et les procureurs sont généralement élus par le Parlement et donc très souvent affiliés à un parti politique.
Et quel est l'argument des magistrats neuchâtelois pour appeler à ce changement ?
Ce ne serait pas d'économiser de l'argent, le mot-clé c'est plutôt l'indépendance. Écoutez Marc Rémy, le président de l'association.
L'indépendance du magistrat est quelque chose d'important, notamment vis-à-vis du pouvoir politique. Et puis on sent que le climat il a changé, on assiste à des critiques au niveau européen ou bien même au niveau suisse. Même si dans le travail quotidien, les magistrats ne sont pas entravés par les partis politiques, l'image que cela peut donner auprès de la population, ces liens financiers en termes de cotisation est problématique justement pour cette question d'indépendance par rapport aux partis politiques.
Et Romain, que répondent les partis ?
Ils insistent surtout sur le fait qu'ils n'ont jamais attenté à l'indépendance de leurs magistrats, mais qu'à partir du moment où une élection est politisée, il n'est pas choquant de demander ou d'exiger une participation financière aux candidats qui se réclament d'une certaine étiquette politique.
Alors comme pour les élus des exécutifs ou des législatifs au fond ?
La situation est tout de même plus compliquée. En Valais, à Fribourg, le PS est confronté respectivement à une juge cantonale et une juge de district qui rechignent à payer. Et ça suscite un certain embarras. Il semble plus dur pour les partis de se montrer ferme avec des juges qu'avec des parlementaires. Parce que les magistrats sont moins intégrés dans la vie des partis que les politiciens. Alors à voir si cette réalité, cette différence va déboucher sur le changement de paradigme espéré par une partie de la magistrature. Pour ce qui est des juges fédéraux, en tout cas, le statu quo est bien parti. Il y a un mois, le Conseil national a refusé une intervention PLR qui voulait interdire tout lien financier entre des juges et leur parti.
Et est-ce que ça ne serait pas quand même un pas de plus vers une justice plus indépendante ? On posera la question à 7h17 à Romain Dubois, il est le président du PS Neuchâtelois.
Merci Romain Carupt. Et puis Antonio Guterres, c'est à Kiev depuis hier soir. Le secrétaire général de l'ONU poursuit en Ukraine sa médiation entamée mardi à Moscou. Il va rencontrer tout à l'heure le président Zelensky après avoir visité plusieurs localités, théâtres d'exactions comme Irpin et Boutcha.
Sur le front des hostilités, les Russes auraient progressé dans le Donbass et la Suisse serait l'un des meilleurs pays au monde quant à l'application des sanctions à l'encontre de la Russie.
Oui, c'est ce que disait ce week-end notre président Ignacio Cassis. 7,5 milliards de francs ont été bloqués selon le dernier chiffre du secrétariat d'État à l'économie. Les banques alors ne suscitent guère de critiques. En revanche, Cléa Favre, les cabinets d'avocats sont de plus en plus considérés comme l'angle mort des sanctions.
Banque ou commun des mortels, tout un chacun a l'obligation d'informer le SECO s'il sait quelque chose sur une personne sous sanction, mais les avocats, eux, font valoir le secret professionnel pour échapper à ce devoir. Alors, qu'est-ce qui prévaut ? L'obligation d'annonce ou le secret professionnel ? Eh bien, à ce jour, c'est obscur. Interrogé à ce sujet, le SECO affirme que les services compétents sont actuellement en train d'analyser soigneusement cette question.
Et comment ça se passe en attendant cette clarification ?
Aujourd'hui, ce qui est limpide, c'est que les avocats n'ont pas le droit de donner des conseils à leurs clients pour contourner les sanctions. Ils violeraient leurs obligations professionnelles. Ils pourraient aussi s'exposer à des poursuites pénales, notamment pour blanchiment d'argent. Autre point sur lequel tout le monde est d'accord, le secret professionnel ne s'applique pas aux activités dites atypiques. Autrement dit, quand les avocats jouent le rôle d'intermédiaires financiers, donc pour tout ce qui a trait à la gestion ou la détention d'actifs pour le compte d'un client. En revanche, pour ce qui relève des activités typiques, en cas de divorce, de succession par exemple, les cabinets peuvent très bien tomber sur des informations qui intéresseraient les autorités. Et là, les avocats sont formels. En l'état, le secret s'applique. Certains nous ont confié qu'ils ne transmettraient rien au SECO de peur d'être condamnés pour violation du secret professionnel. Et selon eux, le Conseil fédéral ne peut pas décider de changer les règles du jeu sans l'aval du Parlement.
L'Union européenne dénonce le chantage au gaz mené par la Russie, qui a fermé les robinets à la Pologne et à la Bulgarie, deux pays qui sont désormais alimentés par leurs voisins européens.
Cela pourrait avoir des conséquences sur la pâte en chocolat de votre tartine du matin. Depuis ce matin, l'Indonésie, premier producteur mondial, stoppe ses exportations d'huile de palme.
Oui, cette interdiction s'applique aussi à d'autres huiles végétales. Elle entre en vigueur pour une durée illimitée. Elle a été décidée par le président Joko Widodo pour contrer une pénurie d'huile de cuisson dans le pays, Katia Scher.
Plusieurs événements ont conduit à cette situation. La hausse des prix de l'énergie, tout d'abord. Philippe Chalmin, professeur à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste des matières premières.
Avec l'augmentation des prix du pétrole, les autorités indonésiennes ont ordonné l'inclusion d'huile de palme pour produire du biodiesel.
Vient ensuite une mauvaise récolte de soja en Amérique du Sud et une sécheresse au Canada qui impacte la production d'huile de colza. Ajoutez encore les problèmes de main-d'œuvre causés par le Covid et les incertitudes quant à la production russe et ukrainienne d'huile de tournesol. Tous ces éléments ont fait bondir les prix des huiles sur le marché. Et pour maximiser les profits, les producteurs indonésiens se sont concentrés sur l'exportation, privant le marché national de cette huile de cuisson indispensable à la population. Mais la mesure imposée par le président Widodo semble disproportionnée. D'abord, l'Indonésie n'est pas un débouché suffisant pour sa production annuelle.
En 2020-2021, sur une production mondiale de 75 millions de tonnes d'huile de palme, l'Indonésie à elle toute seule en a fait 43. Et sur des exportations mondiales d'un peu plus de 50 millions de tonnes, l'Indonésie en a exporté 28 millions de tonnes. Ça veut dire que l'Indonésie exportait pratiquement les deux tiers de sa production.
Et cet embargo est une nouvelle onde de choc sur les prix des aliments. Les derniers indices des Nations Unies le montrent. Les prix des aliments, à cause notamment du cours des huiles, atteignent désormais des niveaux records.
Et ça n'est pas tout. Le prix de votre bouteille de lait pourrait aussi partir à la hausse.
Alors, pas en raison du contenu, mais du contenant. Oui, le prix du verre grimpe en Europe. Plusieurs raisons, la reprise économique, mais surtout la flambée des prix de l'énergie. La guerre en Ukraine, donc, n'a fait qu'accentuer le phénomène. Cynthia Racine, ça inquiète les producteurs suisses de boissons.
Principal facteur de stress pour le marché du verre, la hausse des prix du gaz. Pour fabriquer du verre, des fours sont chauffés à plus de 1300 degrés. Une industrie donc intense en énergie. Le producteur de bière artisanale Dr Gaps, basé à Puydoux, utilise environ 2 à 3 millions de bouteilles en verre par année. Depuis janvier, les prix des contenants sont montés en flèche. Reto Engler est cofondateur de la brasserie.
On a eu encore des augmentations ponctuelles de l'ordre de 10 à 15% pour avril et puis maintenant mai aussi. On découvre un petit peu la situation au jour le jour. Bah, je pense que c'est un peu la même chose pour le fournisseur qui est tributaire d'un marché d'énergie et voilà qui répercute un peu ces coûts-là sur les clients.
Dr Gaps a décidé jusqu'ici de renier sur ses marges, mais ce mois-ci, le brasseur a été obligé d'augmenter ses prix de quelques pourcents. Un phénomène parti pour durer. Les prix des bouteilles en verre ne redescendront pas tant que les prix de l'énergie resteront élevés.
Ignacio Cassis à Londres. Aujourd'hui, le président de la Confédération et ministre des Affaires étrangères veut approfondir avec le Premier ministre britannique Boris Johnson les relations bilatérales construites depuis que Londres a quitté l'Europe.
Espérons qu'il aura plus de chance que Olivia Le hier à Bruxelles.
Oui, la secrétaire d'État chargée de la question européenne a discuté avec la Commission européenne de la proposition du Conseil fédéral visant à résoudre les questions institutionnelles. Mais près de 4 heures de discussion, Alain Franco, n'ont pas permis de faire disparaître les divergences de fond.
À ce stade, l'UE n'est pas en mesure de déterminer si les propositions du Conseil fédéral constituent une base acceptable pour mener des négociations. C'est dit avec mesure et sens diplomatique. Le « à ce stade » ne ferme aucune porte. Mais c'est clair, l'UE est loin d'être convaincue par la nouvelle approche de la Suisse, près d'un an après le refus de Berne de poursuivre les négociations sur l'accord cadre. De nombreuses questions restent ouvertes, ajoute la Commission. Ce que confirme la secrétaire d'État Livia Lloyd dans un tweet, il y a beaucoup de différences à discuter. Après 4 heures de discussion pour la deuxième rencontre depuis que le Conseil fédéral propose sa nouvelle donne, le scepticisme demeure chez les Européens, constate la partie suisse. L'UE continue de demander une solution systémique qui couvre de la même manière les questions structurelles, ainsi que la pérennisation d'une contribution financière suisse au marché unique. Alain Franco, RTS Info Bruxelles.
Le photographe suisse de l'année se nomme Denis Balibouze. Le journaliste de l'année est le Chafouza Mathias Greuter. Ils ont été récompensés hier soir lors des Swiss Press Awards. Le prix suisse des médias couronne notre confrère de mise au point François Rouchti et Simon Gabiou, qui est nouveau collaborateur de la RTS après avoir passé par le temps. En octroyant hier des concessions pour les casinos, le Conseil fédéral a augmenté leur nombre. Dès 2024, 23 maisons de jeux pourront coexister, dont deux nouveaux dans les régions de Winterthur et de Lausanne. Mais ça ne veut pas dire qu'un casino va voir le jour bel et bien dans la capitale vaudoise, parce que la municipalité, par la voix de son syndic Grégoire Junot, émet des réserves.
Il faut bien voir qu'aujourd'hui, les casinos, c'est deux tiers de chiffre d'affaires, voire un peu plus, qui se réalisent sur les machines à sous. On est donc assez loin en fait de l'image qu'on a parfois dans les films de tables de jeux, de machines à sous et de blackjack avec une clientèle fortunée qui dépenserait beaucoup d'argent dans la région. C'est une petite partie de la clientèle. Pour beaucoup, c'est une clientèle jeune. Et ce qui intéresse aujourd'hui des porteurs de projets à Lausanne, c'est la clientèle du flon. Et nous ne sommes pas du tout convaincus, en tout cas pour l'heure, qu'effectivement ce soit positif pour Lausanne d'avoir un casino qui plus est au centre-ville et que ça ne créerait pas forcément un cercle vertueux en matière de promotion de la destination, de valorisation de la ville et de potentiel de développement économique.
Grégoire Junot avec Malika Sialom. Zoug ne veut pas perdre son titre de champion suisse de hockey sur glace. Vainqueur 4-1 hier soir à domicile, les Zougois reviennent à 3-2 dans la série qui les oppose à Zurich. Et puis Liverpool a pris une option sur la finale de la Ligue des champions de football en battant Villarreal 2-0 au match aller des demi-finales. Match retour mardi prochain, ce sera en Espagne.
Et Rohan Dennis pensait avoir gagné hier à Romont, mais le cycliste australien s'est fait coiffer au poteau par le belge Dylan Teuns.
Oui, tout s'est joué dans la dernière montée sur Romont lors de la première étape du Tour de Romandie. Troisième, le Bernois Marc Hirschi, il démontre qu'il monte en puissance. Il revient sur une fin d'étape mouvementée marquée par une chute collective.
C'était dur parce que dans les derniers 20 km, on a dû
de face.
Oui. C'était dur, mais aussi vite et dangereux. Et après, en dernière pause, j'étais vraiment bien. Et après, j'étais 2-3 positions trop dedans. Et après, c'était difficile en dernière 200 mètres parce que j'en ai un trou pour finir ça. Mais les chambres, c'était vraiment bien. Et j'espère que je fais quelque chose peut-être aux troisième étape.
Marc Hirschi avec Jérôme Jeannin. Alors au classement général, Rohan Dennis chip le maillot vert à Ethan Hayter qui a perdu 14 minutes hier à cause de cette fameuse chute collective. Au programme aujourd'hui, la fameuse boucle autour des Chalands. On pourrait dire que Donald Trump joue un peu trop à Mario Kart. Oui, figurez-vous que pendant la campagne de son élection en 2016, la phobie du candidat, eh bien, c'était de se faire bombarder de fruits dangereux.
Ah bon ?
Oui, des ananas, des tomates et des bananes, dit-il. Oui, et pour Donald Trump, ces fruits étaient même considérés comme susceptibles de le tuer.
Ah oui.
Oui, qui va vraiment bien plus loin que les fameuses peaux de banane qui font régulièrement sortir de la route le petit bonhomme en carte dans le jeu vidéo si célèbre. Hein. Mm-hmm. Et figurez-vous que j'invente rien. Hein. Non, l'ancien président l'a même déclaré sous serment devant la justice à New York. C'était le 18 octobre dernier. Les transcriptions de son audition sont publiques depuis hier. C'est pour ça qu'on le sait.